Chapitre 85. 2 janvier 2003. Étienne Beaulieu vient de partir de chez lui. Emmanuel est toujours allongé sur son canapé. Plus de 2 ans qu'il la cherche partout, alors qu'elle est ancrée et mère ailleurs. Toute cette énergie déployée pour en finir là, sur le dernier des scénarios qu'il aurait envisagé. Que faisait-il avant de la rencontrer ? Il faut toujours se demander de quoi a été fait notre quotidien avant de croiser la personne qui a bousillé notre vie. Peut-être repartir de là où on était avant de se tromper de direction. À quoi ça sert de s'accrocher à quelqu'un qui ne versera pas une larme le jour de votre mort, qui ne fera jamais de détour pour déposer une fleur sur votre tombe, qui est parti du jour au lendemain en vous abandonnant comme une merde, qui a carrément refait sa vie ailleurs en quelques mois, comme si votre histoire n'avait jamais existé, pense Emmanuel. Il a envie de se laver, se raser, s'habiller. Longtemps qu'il n'avait pas ressenti cela, une impulsion. Il se lève et grimpe les escaliers pour aller dans la salle de bain, son reflet dans le miroir, misérable, la peau sur les os. Il va quitter cette maison, partir à Lyon, se rapprocher de ses amis, rencontrer quelqu'un, pas une paumée mais une vraie femme. Trop longtemps qu'il n'a pas fait l'amour. Juste ça, bander, sentir un corps contre le sien, salir l'autre, en touchant de nouvelles peaux, l'oublier, l'effacer à force de passer et repasser sur son fantôme. Récemment, les Lyonnais l'ont inscrit sur un site. « Il faut que tu rencontres quelqu'un ». Ils lui ont créé un profil en changeant son nom. Emmanuel Mésange, 1m80, yeux verts, cheveux châtains, centre d'intérêt, golf, littérature classique, cinéma, course automobile. Pourquoi le golf ? Parce que ça en jette, lui ont-ils répondu. Mais je n'ai pratiquement jamais tenu un club de ma vie. On s'en fiche ? Je n'ai pas envie d'aller sur votre truc. Tu vas y aller quand même. Sortir, boire un verre, te changer les idées. Ça ne t'engage à rien. Je n'ai pas mis les pieds au cinéma depuis la sortie d'Itinéraire d'un enfant gâté. C'était il y a 14 ans. De toute façon, à un premier rendez-vous, on ne parle pas de ça. Ah bon ? De quoi parle-t-on ? Tu verras bien. Ils ont choisi une photo prise à l'île Maurice, sur laquelle Emmanuel est de profil, bronzé, souriant. Des centaines de femmes lui ont envoyé des messages. Des filles qui s'offrent. Emmanuel a passé en revue le portrait de chacune, comme dans un catalogue. Aucun intérêt. Sauf une qui a attiré son attention. Isabelle, 35 ans, vivant à Chalon-sur-Saône, férue d'équitation. 1m70, blonde, les yeux bleus. Physiquement, le contraire de Nina. Son premier message débutait ainsi. « Que faites-vous sur ce site, monsieur Mésange ? Quel est donc ce nom d'oiseau ? Qui se cache derrière votre profil ? Et ne me répondez pas que ce sont vos amis qui vous ont inscrit contre votre gré, je ne vous croirai pas. » Emmanuel lui a répondu parce que son message l'avait fait sourire et que cela ne lui était pas arrivé depuis des lustres. « Si. Ce sont vraiment mes amis qui m'ont inscrit dans ce supermarché. Pourquoi aurait-il fait cela ? Ils en ont marre de me voir traîner les pieds. Je ne suis pas un homme drôle. Je suis désolée. Désolée parce que je ne suis pas drôle ? Ils se sont envoyés d'autres mails, puis téléphonés. Ils ont continué à échanger et Isabelle a fini par lui donner rendez-vous. Et si on se retrouvait au bar de l'Hexagone pour boire un café ? Si c'est agréable, je vous emmènerai dîner quelque part. Si ça ne l'est pas, nous nous quitterons bons ou mauvais amis. Emmanuel a mis une semaine avant d'accepter. Puis il lui a fait faux bond. La première fois, une grippe foudroyante. La deuxième, un accident. Rien de grave, que de la tôle froissée. La troisième, un déplacement imprévu à l'étranger. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, Emmanuel a envoyé un message de bonne année à Isabelle, qui ne lui a pas répondu. Elle avait jeté l'éponge. Et s'il la jetait à son tour ? S'il jetait Nina ? Ne serait-ce pas le moment d'y aller ? De rencontrer des Isabelle ? Il monte dans sa voiture. Il lui téléphonera en arrivant à Chalon. « C'est moi. Je suis là. Je suis prêt. Pardon pour le retard. » Il roule jusqu'à Beaune pour récupérer l'autoroute. Il est à mi-chemin quand son portable sonne. Il ne reconnaît pas tout de suite la voix de son interlocuteur.
J'ai retrouvé Ninabo.
Oui, je sais, elle vit à Annecy, ça m'est égal. On laisse tomber. Envoyez-moi votre facture et ne me parlez plus jamais de cette salope.
Mais pas du tout.
La communication est coupée. Emmanuel balance son portable sur le siège passager. À la place de Nina, pense-t-il. Oublie-la, nom de Dieu, oublie-la. Le détective le rappelle.
Elle n'est pas à Annecy. Elle n'est pas partie. Elle vit au refuge de la Comelle.
Emmanuel est pris d'un vertige. Quel refuge ?
La SPA, si vous préférez. Elle travaille là-bas.
C'est peut-être quelqu'un qui lui ressemble.
Non, c'est elle. Ninabo. Numéro de sécurité sociale 2-76-08-71-393-126-07. Elle était à l'hôpital d'Autun hier.
Emmanuel raccroche sans un mot, fait un tête-à-queue et finit sa course sur la bande d'arrêt d'urgence. Son cœur cogne comme un fou. Beaulieu s'est fichu de lui. Évidemment. Comment a-t-il pu croire de telles inepties ? Nina mariée. Qui aurait eu envie d'épouser cette alcoolique bouffie ? Elle torche le cul des kleps, mais bien sûr, une souillon sera toujours une souillon. Comment a-t-il cru qu'elle avait un enfant ? Elle est stérile. Le refuge. C'est donc là qu'elle se planque depuis tout ce temps, à portée de main. Même pas été foutue de parcourir plus de 3 kilomètres à vol d'oiseau. Et l'autre qui lui a raconté Annecy, la poussette et le cabot. Et lui qui a été assez stupide pour l'écouter. Il n'aurait jamais dû lui ouvrir la porte, le laisser entrer. Deux options s'offrent à lui. Il poursuit sa route jusqu'à Chalon, se gare dans le centre-ville, cherche l'hexagone, s'installe à l'intérieur, commande un chocolat chaud, téléphone à Isabelle et insiste jusqu'à ce qu'elle réponde, lui demande de le rejoindre. « Je vous en prie, venez. Je vous attends au fond de la salle. Une table pour deux, contre le miroir. Je porte un caban bleu marine. Je ne bouge pas. Je m'attache à ma chaise s'il le faut pour que personne ne puisse me mettre dehors à la fermeture. Venez, vous n'avez rien à perdre. On se retrouve, on part tous les deux quelque part, où vous voulez. Où ça vous chante ? Votre travail ? Vous vous ferez porter pâle ? Il attend quelqu'un. Depuis combien d'années cela ne lui est-il pas arrivé ? Elle finit par surgir, lui sourit. Elle est encore plus belle que sur les photos. Il aime sa voix, ses mains, son odeur. Elle porte l'heure bleue et un bracelet en argent au poignet droit. Leur complicité est immédiate. Ils se sentent bien l'un avec l'autre, n'ont pas besoin de chercher de sujet de conversation. La parole se libère toute seule. Isabelle commande un chocolat chaud. « Comme vous », dit-elle. « Vous avez déjà rencontré d'autres femmes via ce site ?»« Non, vous êtes la première. Menteur, je vous jure. »« Et vous, d'autres hommes ?»« Non, vous êtes le premier. » »« Menteuse, je vous jure. » Elle est délicate. À la façon dont elle le regarde, il sent qu'il lui plaît. Le poids qui lui comprime la poitrine depuis plus de 2 ans se déleste. Il se redresse, se sent désiré, écouté. Plus ils se parlent, plus Emmanuel envisage cet inconnu. Passer la soirée, puis la nuit avec elle. Et pourquoi pas demain, la semaine suivante ? Il la fait parler, lui pose des questions. Vous avez 2 sœurs, c'est ça ? Il adore sa voix, ses réponses, ses dents, sa bouche. Elle porte un foulard autour du cou qu'elle touche souvent. Un long manteau beige qu'elle n'a pas ôté, juste déboutonné. Ses ongles sont manucurés mais pas vernis. Elle n'a rien de sophistiqué, juste un peu de brillant sur ses lèvres rouges. Ses grands yeux bleus le fixent. Intelligence. La candidate est parfaite, pense-t-il. Si on était à une élection, c'est elle qui gagnerait le concours. Il lui raconte un peu d'Amam. Il va vendre, se soulager du poids familial. Je veux repartir de zéro. C'est une étrange formule. Pourtant, en ce qui me concerne, elle me va comme un gant. Et vous montez souvent à cheval ? Dès que je peux, le soir après le travail et tous les week-ends. On pourrait se tutoyer, non ? D'accord. Tu es belle. Tu n'es pas mal non plus. Il aime son audace. Enfin, peut-être. Il ne sait plus ce qu'il aime. Il faut voir. Deux options s'offrent à lui. Il ne va pas à Chalon, ne rencontre jamais une Isabelle, ne se projette pas, se fiche dans le présent pour l'éternité. Il roule jusqu'à la Comelle, repasse chez lui, prend une des armes de chasse de son père, va au refuge, la trouve, là-bas de deux cartouches. Oui, deux cartouches devraient suffire pour l'effacer de la surface de la terre. Il ne la laisse même pas parler. Pas un mot. Boum. Si. Avant de la descendre, il la fait mettre à genoux pour qu'elle l'implore. C'est la moindre des choses. L'entendre prononcer le mot pardon. Ensuite, il va à Lyon, trouve Beaulieu. Il a son adresse personnelle et celle de son commissariat. Et boum. Deux autres cartouches pour le beau mec qui s'est bien foutu de lui ce matin. Bonne année, qu'il lui dira. Et bonne santé, enculé. Deux choix s'offrent à lui. Passé, présent. Nina a mouillé l'encre dans le présent et l'empêche de prendre le large. Il ne tient qu'à lui de larguer les amarres. Il lui reste 5 kilomètres à faire avant de prendre une décision. Aller tout droit ou faire demi-tour. Une fois le péage franchi, il poursuit la route jusqu'à Chalon où il vérifie qu'il n'y a pas de flic et emprunte le contresens sur 500 mètres pour récupérer la 6 et retourner à la Comelle. Au début, Nina n'a pas cru Lily. Ton mari s'est foutu en l'air sur l'autoroute. Puis elle a pensé à Étienne. Qu'avait-il fait en quittant le refuge? Qu'avait-il provoqué? Cela ne pouvait pas être une coïncidence. 3 semaines après les obsèques d'Emmanuel, Lily et Nina étaient montées au cimetière pour aller sur la tombe de Pierre Beau. Puis elles s'étaient rendues sur celle d'Emmanuel, qui reposait à 200 mètres, dans le caveau familial. G et Henri-Georges n'avaient pas mis de photographie sur le marbre noir, juste une plaque. À notre fils tant aimé. Pourquoi Emmanuel roulait-il à contresens sur l'autoroute? Suicide ou accident? Était-il troublé par ce que lui avait dit Étienne? S'était-il vu? Elle ne le saurait sans doute jamais. Devant sa tombe, Nina avait frissonné. Puis, peu à peu, elle s'était figée. Elle avait senti la présence de l'homme dont elle portait toujours le nom. Comme si son mari tournait autour d'elle, hurlant sa haine qu'elle soit là, présente, simplement vivante face à lui. Elle ne reviendrait pas. En ressortant du cimetière, Nina avait réactivé son téléphone. La voix d'Emmanuel, comme revenue de l'au-delà, de l'ancienne vie, lointaine. Des dizaines et des dizaines de messages, alternant menaces, hurlements, sanglots, suppliques.
Où es-tu? Reviens, je ne te ferai pas de mal.
Elle les avait écoutés les uns après les autres, espérant, parmi toute cette folie, entendre la voix d'Adrien. Entendre.
Nina, c'est moi.
Rien. Elle avait tout effacé. Puis elle avait demandé à Lily de l'emmener à l'Agence nationale pour l'emploi. Il fallait qu'elle s'inscrive pour retrouver du travail. Une vie. Un appartement.